Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene.
Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, la psychologie est la science de la vie mentale. Par ces quelques mots, dès 1890, William James cernait le domaine de ce qui est devenu aujourd'hui la psychologie cognitive. Celle-ci s'affirme comme une part intégrante des sciences de la vie, qui exploite toute la panoplie des méthodes de la biologie, depuis la génétique jusqu'à l'imagerie cérébrale. Mais une science de la vie mentale, qui tente d'énoncer des lois générales de la pensée, un domaine intime et subjectif que l'on aurait pu penser inaccessible à la méthode scientifique. Ses visées sont larges. Comment s'organise la chaîne de commande depuis la perception jusqu'à l'acte moteur? Sous quelle forme sont stockés nos souvenirs? Qu'est-ce qu'un mot, un concept, une émotion, une intention, une décision, une introspection? Quelles règles gouvernent la syntaxe des opérations cognitives? Comment distinguer une information consciente d'une information non consciente? L'enjeu de la psychologie cognitive est d'énoncer en réponse à chacune de ces questions des lois d'une portée générale et d'en comprendre les origines à l'intersection de contraintes imposées tant par la biologie du cerveau que par l'environnement et la culture dans lesquelles celui-ci s'épanouit. On pourrait légitimement juger cette ambition démesurée. Nombreux sont ceux qui qualifient encore la psychologie de science molle. Ils doutent qu'elle dispose de méthodes et de résultats expérimentaux dont la qualité approche ne fût-ce que de très loin celle de la physique ou de la chimie. Ils voient également dans la diversité des cultures, des personnalités et des compétences humaines la preuve qu'aucun système ne saurait jamais mettre l'âme humaine en équation. Pourtant, si l'Assemblée des professeurs a souhaité qu'après des décennies d'absence, la psychologie soit de nouveau enseignée au Collège de France, je veux y voir la reconnaissance des progrès sans précédent que connaissent les sciences cognitives. Depuis une vingtaine d'années, partout dans le monde, se créent des laboratoires où le décryptage des opérations mentales rassemble psychologues, linguistes, anthropologues, éthologues, neurophysiologistes, médecins, physiciens, mathématiciens. La confrontation de questions philosophiques très anciennes, souvent posées avec acuité par Platon, Kant ou Descartes, avec les nouvelles technologies des sciences du comportement, de la neuroimagerie et de la modélisation mathématique, crée une friction particulièrement favorable à l'émergence de nouvelles connaissances. Les attentes de la société sont également nombreuses envers ce domaine de recherche proche de notre vie de tous les jours, partenaire de la médecine et de l'éducation, et dont les possibilités, particulièrement en ce qui concerne l'imagerie cérébrale, restent mal connues. Il est donc urgent d'enseigner la psychologie cognitive, tant pour faire partager la profondeur de certains de ses résultats, que pour débattre en toute connaissance de cause de leurs enjeux. C'est ainsi que j'envisage, mes chers collègues, le grand honneur qui me revient aujourd'hui. Cette distinction serait écrasante si je n'avais pas la certitude qu'à travers le choix de ma personne, vous privilégiez avant tout celui d'une discipline en plein essor dont je ne suis que l'un des nombreux représentants. Je vous remercie de votre confiance dans ma capacité à m'en faire le porte-parole avec enthousiasme, mais aussi une conscience aiguë du chemin qui reste à parcourir. Ma gratitude va tout particulièrement à Alain Berthoz, qui a soutenu ma candidature avec enthousiasme, et à Jacques Glowinski, qui m'a accueilli au collège avec bienveillance. Je salue également mes deux maîtres, Jacques Meller, qui alors que je n'étais qu'un tout jeune mathématicien, m'a transmis sa rigueur et sa passion pour la psychologie expérimentale, et Jean-Pierre Changeux, mon collaborateur depuis 20 ans, qui m'a incité à tenter de concilier psychologie et neurosciences avec patience, souvent indulgence, fidélité, humour et surtout une immense et bien connue culture. J'ai également eu la chance de travailler au fil des années avec d'autres brillants collègues qui sont ici ce soir, notamment Laurent Cohen, Denis Le Bihan, Lionel Nakache, Michael Posner et bien sûr mon épouse et ma collaboratrice Ghislaine. Enfin, mon domaine de recherche dépend à présent de machines sophistiquées, d'imagerie par résonance magnétique, d'électro ou de magnétoencéphalographie. Je voudrais rendre ici un hommage particulier au Commissariat à l'énergie atomique et à l'INSERM. Grâce à leur soutien et au remarquable sens stratégique d'André Sirota et de Christian Bréchaud, s'ouvrira dans quelques mois un nouveau centre Neurospin dont les équipements exceptionnels au niveau international permettront d'aller encore plus loin dans l'analyse des fonctions cognitives humaines. Mesdames, Messieurs, la question dont je voudrais débattre aujourd'hui concerne la nature des lois que la psychologie est susceptible de découvrir et la possibilité même que certaines de ces lois soient aussi solides et universelles que peuvent l'être les lois de la physique. Dans les 20 dernières années, la psychologie cognitive s'est spécialisée, se focalisant sur les détails de quelques phénomènes, plus que sur l'architecture générale de la cognition. Sans doute suit-elle en cela, et à raison, l'exemple de la physique, qui nous a montré souvent que seule l'étude obstinée d'une question étroite donnait accès à la structure intime du monde naturel. C'est Galilée et la chute des corps, Newton et les couleurs de l'arc-en-ciel, Einstein et l'origine de l'effet photoélectrique. Mais le psychologue fait également sienne la leçon de Darwin. Le cerveau a évolué au fil de 1000 pressions, de 1000 bricolages. Il abrite en lui toute une collection de fonctions spécialisées. La psychologie cognitive s'attache donc à étudier minutieusement chaque domaine de la cognition, dont le fonctionnement répond souvent à des contraintes particulières. Ainsi existe-t-il une psychologie de la reconnaissance des visages, de la lecture, de la programmation de l'action, des émotions ou de la représentation d'autrui. Faut-il en conclure qu'il ne sera pas possible d'établir dans notre science des lois de portée universelle ? Je ne le crois pas. Par-delà les hasards de l'histoire évolutive et culturelle de l'espèce humaine, j'envisage au moins trois sources possibles de lois générales de la cognition. En premier lieu, interviennent évidemment des lois physiques, chimiques et biologiques. L'ancrage de la pensée dans la biologie du cerveau implique que les principes d'organisation du vivant contraignent notre vie mentale. Comme le souligne Jean-Pierre Changeux, le cerveau de l'homme est une formidable machine chimique où l'on retrouve les mêmes mécanismes moléculaires à l'œuvre que chez la mouche drosophile ou le poisson torpille. C'est ainsi que la vitesse, ou plutôt la lenteur, de nos opérations mentales et de nos apprentissages se relie directement à la vitesse de propagation des signaux électriques et des transitions moléculaires des récepteurs membranaires de notre cerveau. Dès 1850, à l'aide de méthodes mises au point par Émile Dubois-Raymond, le physicien et physiologiste Hermann von Helmholtz établit la vitesse de l'influx nerveux, seulement quelques dizaines de mètres par seconde. En 1868, inspiré par ses travaux, Franciscus Donders démontre que cette conduction lente affecte nos décisions mentales. La vitesse de la pensée n'est pas infinie. Il est aisé de décomposer les opérations mentales en une somme d'étapes lentes, plusieurs dizaines de millisecondes par étape. Aujourd'hui, cette vitesse, qui s'accélère au cours du développement, peut être mise en relation directe avec la myénisation axonale mesurable chez l'homme par l'imagerie de diffusion. Dans certaines formes de retard mental, comme le syndrome d'X fragile, qu'étudie notre collègue Jean-Louis Mandel, le ralentissement des fonctions cognitives est mis en relation directe avec des anomalies quantitatives du génome. Ainsi, les perspectives médicales de ce type de loi psycho-biologique sont-elles considérables ? Une seconde catégorie de loi de la psychologie trouve son origine à un niveau de description que l'on pourrait qualifier d'algorithmique. L'invention de l'ordinateur, les travaux d'Alan Turing et de John von Neumann, mais aussi ceux de Noam Chomsky ou David Marr, ont conduit à l'apparition d'une science de la computation dont l'objet est l'invention et l'analyse d'algorithmes aptes à résoudre avec efficacité les problèmes les plus divers. Reconnaissance visuelle, stockage d'informations, apprentissage de grammaire formelle. Le cerveau humain, superbe exemple de système de traitement de l'information, est souvent confronté aux mêmes problèmes pour lesquels n'existe qu'un petit nombre de solutions efficaces. Ainsi, les lois que le psychologue dévoile répondent-elles souvent à des contraintes algorithmiques universelles ? Une large part de la psychologie cognitive consiste ainsi à tenter d'inférer les algorithmes de la pensée. Cependant, emportés par leur enthousiasme pour la métaphore de l'ordinateur, trop de psychologues fonctionnalistes ont par le passé négligé l'architecture du cerveau. Tout indique que celle-ci ne ressemble en rien à celle d'un ordinateur classique. C'est une étonnante machine comprenant de multiples niveaux d'architecture enchâssés massivement parallèles. Avec 100 000 millions de processeurs, 1 million de milliards de synapses, cette structure reste sans équivalent en informatique et ce serait une erreur profonde de penser que la métaphore de l'ordinateur puisse s'y appliquer sans modification. On a pu dire que la neurobiologie s'intéresse au matériel et la psychologie au logiciel du cerveau, le hardware et le software. Cette dichotomie réductrice est totalement inadéquate. Tous les niveaux d'organisation, depuis la molécule jusqu'aux interactions sociales, conspirent pour déterminer notre fonctionnement mental. Il n'y a donc pas de compartimentation étanche entre biologie et psychologie. Au contraire, psychologues et neurobiologistes, par des voies différentes, s'attachent tous deux à comprendre comment une fonction cognitive émerge de l'architecture hiérarchique et enchâssée du système nerveux. Les lois de la psychologie peuvent certes être formulées transitoirement par le biais d'algorithmes formels, toutefois elles ne seront comprises en profondeur que lorsqu'elles auront été mises en relation avec tous les niveaux d'organisation du cerveau. À ceux que découragerait la complexité de ce programme, je rappellerai simplement la boutade de Lyell Watson « Si notre cerveau était simple, nous serions encore trop simples pour le comprendre. » C'est précisément parce que notre cerveau est assez complexe que nous avons une petite chance de le comprendre. Les méthodes de neuroimagerie jouent ici un rôle central. Il reste encore quelques psychologues pour ne voir dans l'imagerie cérébrale qu'une coûteuse entreprise de néo-phrénologie, dont l'unique objectif serait la localisation des fonctions. Pour illustrer pourquoi cette vision phrénologique est erronée, j'aime à montrer une gravure de Matthias Greuter, qui, dès le XVIe siècle, semble anticiper l'avenir de l'imagerie cérébrale. On y voit un volontaire se faire scanner dans un four d'alchimie. De son cerveau émergent non pas des localisations, mais des représentations mentales. Musique, personnages, animaux, maisons. La métaphore me paraît juste. L'imagerie vise avant tout à décomposer l'architecture fonctionnelle des représentations mentales et offre un accès plus direct aux mécanismes de la pensée que la seule analyse du comportement. Aux psychologues cognitifs qui aiment soigner ces outils, l'imagerie cérébrale fournit le plus aiguisé des scalpels. Pour le plaisir des yeux, autant que pour celui de l'esprit, examinons ensemble quelques exemples significatifs. Au niveau anatomique, tout d'abord, nous disposons aujourd'hui d'anatomistes virtuels, des programmes entièrement automatisés, capables, par exemple, d'étiqueter automatiquement les sillons du cortex. Ici, les couleurs se stabilisent à mesure que l'ordinateur assigne automatiquement une identité à chacun des sillons du cortex. Ces programmes peuvent séparer les faisceaux transcorticaux de la substance blanche. Ici, chaque couleur correspond à un faisceau identifié qui relie différentes régions corticales. Ils parviennent également à déplisser le cortex pour le présenter sous forme de carte plane et standardisée. Mais cette cartographie, comme je l'ai dit, n'est qu'une étape. Vont être ensuite projetées sur ces cartes anatomiques des propriétés fonctionnelles d'intérêt beaucoup plus direct pour le psychologue. On parvient par exemple à suivre le décours temporel de la lecture d'un mot, depuis les étapes visuelles jusqu'à l'explosion de l'accès au lexique et à la prononciation. Certaines de ces étapes fournissent des marqueurs particulièrement sensibles de la dyslexie. L'IRM permet également de suivre l'activité rétinotopique évoquée par des stimuli visuels. Ici, on voit comme le reflet sur le cortex de l'activité évoquée par ce stimulus sur la rétine. Cette méthode permet de dresser l'inventaire des cartes visuelles du cortex dont la surface, variable d'un individu à l'autre, prédit les variations de l'acuité visuelle. Plus intéressant encore pour le psychologue est le suivi de l'attention que la personne, sans bouger les yeux, porte à tel ou tel objet et qui amplifie l'activité corticale dans les territoires corticaux correspondants. Ici, on voit que quand la personne fait attention à droite, l'activité est amplifiée dans les aires visuelles gauche et quand elle fait attention à gauche, l'activité est amplifiée dans les régions visuelles droite. Enfin, l'imagerie commence à conduire au décodage des images mentales. Lorsque nous imaginons une forme par la pensée pure, l'activité des aires visuelles esquisse le contour de l'objet qui a été imaginé, ici à gauche ou à droite du point de fixation. Ainsi commence à se dénouer une des plus anciennes questions de la psychologie, la nature analogique ou propositionnelle des images mentales, que l'analyse du comportement seule ne pouvait trancher. Tous ces exemples ne font pourtant qu'effleurer le remarquable potentiel de la neuroimagerie pour la psychologie cognitive que je développerai dans mes premiers cours. Mais la question des images mentales nous ramène aux lois de la psychologie. En effet, l'internalisation dans notre cerveau d'images du monde extérieur introduit une troisième catégorie de lois psychologiques universelles, qui sont en réalité des lois physiques internalisées. On se souvient de l'interrogation d'Albert Einstein. « Le plus incompréhensible, disait-il, c'est que le monde nous soit compréhensible. » Cependant, comment pourrions-nous survivre si les lois de notre environnement nous étaient entièrement étrangères? Dans un contexte darwinien, la permanence de l'organisme ne peut s'envisager sans une forme minimale d'intelligibilité du monde. Au cours de son évolution, mais aussi de son développement, notre système nerveux apprend à comprendre son environnement, comprendre, c'est-à-dire le prendre en lui, l'internaliser sous forme de représentations mentales qui reproduisent par isomorphisme psychophysique certaines de ces lois. Nous portons en nous un univers d'objets mentaux dont les lois imitent celles de la physique et de la géométrie. C'est dans la perception et l'action que ces lois physiques internalisées se manifestent le plus clairement. Notre appareil sensorimoteur connaît par exemple la cinématique lorsqu'il anticipe les trajectoires des objets. Mais ces lois continuent de s'appliquer en l'absence de toute action ou perception lorsque nous nous contentons d'imaginer un objet en mouvement ou une trajectoire sur une carte. Comme l'ont montré Roger Shepard et Stephen Koslin, le temps de rotation ou d'exploration de ces images mentales suit une fonction linéaire de l'angle ou de la distance à parcourir. La trajectoire mentale imite la trajectoire d'un objet physique. Roger Shepard, à la suite d'Ernst Mach, voit dans ces lois physiques internalisées l'origine de la mystérieuse efficacité des expériences de pensée, qui nous permettent par pure réflexion de tirer des conclusions souvent profondes sur les lois de la nature. Avant même d'en faire l'expérience, il a suffi, semble-t-il, à Galilée d'un raisonnement pour déduire que deux corps de masse différentes tombent à la même vitesse. La possibilité même de telles expériences de pensée montre que notre esprit incorpore certaines des lois de la physique. Mes propres recherches m'ont conduit à étendre cette conclusion aux mathématiques. Je prétends en effet que l'activité mathématique trouve ses racines ultimes dans les représentations mentales structurées que nous héritons de notre évolution, le sens du nombre, de l'espace, du temps. Au laboratoire, nous ne pouvons guère qu'étudier les plus élémentaires de ces opérations mentales, que l'on pourrait qualifier de proto-mathématiques. Toutefois, nous commençons à les comprendre dans un détail tel que nous pouvons, étape par étape, inférer la nature des processus employés par notre cerveau. Ma leçon d'aujourd'hui se présentera donc comme la dissection d'une fonction cognitive, l'arithmétique mentale, et l'identification des différentes lois qui la gouvernent. Nous verrons que la psychologie de l'arithmétique offre un beau prétexte à passer en revue certaines des lois les plus solides de la psychologie cognitive. Par une curieuse boucle récursive, les mathématiques, qui sont le produit de l'esprit humain, nous aident à en formuler les lois. Au premier rang des questions qu'espère résoudre la psychologie cognitive figure celle de l'origine des concepts, et particulièrement des concepts abstraits, tels que celui de nombre. On aurait pu penser que l'arithmétique n'est qu'une invention culturelle récente, un ensemble de recettes inventées par le monde civilisé pour résoudre ces problèmes comptables. Pourtant, dès les années 50, les travaux d'Otto Keller démontrent que le concept de nombre est accessible à de nombreuses espèces animales. Keller avait ainsi entraîné plusieurs oiseaux à évaluer un ensemble de points, puis à retrouver parmi plusieurs boîtes celles dont le couvercle porte le même nombre afin d'y obtenir une récompense. Ici, on voit donc cet animal repérer un premier nombre, puis aller retrouver parmi plusieurs choix le nombre correspondant. Des dizaines d'expériences, conduites notamment par Herb Therese et Elizabeth Brannon, ont aujourd'hui prolongé ces démonstrations pour montrer que l'estimation, la comparaison et le calcul de quantités numériques approximatives sont accessibles non seulement aux primates non humains, mais également aux rongeurs, aux oiseaux, aux dauphins, à certains reptiles. D'élégants contrôles montrent que c'est bien le nombre et non un autre paramètre comme la surface ou la taille qui détermine les choix de l'animal. Un critère simple permet de juger du degré d'abstraction de cette représentation mentale, la généralisation à travers les modalités visuelles et auditives. Un primate reconnaît par exemple l'association entre trois visages et trois voix. Le concept de nombre n'existe-t-il que chez l'animal de laboratoire après des milliers d'essais d'entraînement ? La recherche en éthologie cognitive indique au contraire que dans leur vie sauvage, de nombreuses espèces font spontanément appel à l'arithmétique. Selon les observations de Mark Hauser, par exemple, des chimpanzés, avant d'agresser un adversaire, évaluent si leur coalition est suffisamment nombreuse, un comportement également observé chez les dauphins et les lions. D'autres primates, testés en un seul essai, sans entraînement, anticipent le résultat d'une addition ou d'une soustraction avant de choisir la plus grande de deux sources de nourriture. Ainsi, l'intuition approximative du nombre, mais aussi des autres grandes catégories kantiennes que sont l'espace et le temps, est répandue dans le monde animal, sans doute parce qu'elle est essentielle à la survie. Pas une espèce qui n'ait besoin d'évaluer les sources et les quantités de nourriture, ou, dans le cas des espèces sociales, le nombre et la qualité de ses alliés ou de ses ennemis. Homo sapiens a hérité de ses capacités proto-arithmétiques. Jean Piaget, pionnier du développement cognitif, avait cru dégager au fil d'interrogatoires serrés des enfants une construction hiérarchique des opérations logico-mathématiques. Il en concluait que le concept abstrait de nombre n'apparaissait que tardivement chez l'enfant. Mais ses recherches ne distinguaient peut-être pas suffisamment la formulation explicite et souvent linguistique des concepts, effectivement tardive, d'une intuition arithmétique non-verbale bien plus précoce et universelle. La nouvelle psychologie du développement s'est inspirée de l'éthologie afin d'évaluer sans recourir au langage les compétences de bébés de quelques mois seulement. Dans le domaine de l'arithmétique, les résultats sont sans appel. Le sens des nombres existe très tôt chez le nourrisson. Même un bébé de quelques mois sait déjà faire la différence entre 8 et 16 objets, établir des liens multimodaux entre deux sons et deux images, ou évaluer une opération arithmétique concrète. Les expériences de Karen Wynne et d'Elisabeth Spelke indiquent que l'enfant a déjà internalisé les opérations arithmétiques fondamentales d'addition et de soustraction. Lorsqu'une animation montre 5 objets disparaître derrière un écran, puis 5 autres objets s'y ajouter, Le bébé regarde plus longuement la scène finale, si celle-ci, par magie, ne montre que 5 objets et non les 10 attendus. 20 ans de recherche sur le développement cognitif réfutent ainsi l'idée d'une lente construction logique qui s'étalerait tout au long de l'enfance. Dès la naissance, notre cerveau s'attend à trouver, dans le monde extérieur, des objets mobiles dont les combinaisons obéissent aux règles de l'arithmétique. Pour autant, le concept de nombre est-il inné ? Je récuse ce terme, dont la psychologie cognitive me semble souvent faire un usage imprudent et presque incantatoire. Dire qu'un comportement est inné ne fait que cacher notre ignorance des mécanismes de son développement, la plupart du temps. Un vaste fossé explicatif sépare la génétique moléculaire, seul niveau où l'on peut peut-être légitimement parler de code inné, des compétences précoces de l'enfant. Les gènes ne spécifient pas des comportements, encore moins des concepts. Tout au plus définissent-ils des biais initiaux, un instinct d'apprendre, pour reprendre l'expression heureuse de James Gould et Peter Marler. En bref, l'organisation initiale et le développement du cerveau du bébé constituent une vaste terra incognita, pratiquement vierge, qu'il sera passionnant d'explorer dans les années à venir. La présence de compétences numériques chez le nourrisson, avant même l'acquisition des premiers mots, souligne la possibilité d'une pensée abstraite sans langage. Sur ce point, les préoccupations de la psychologie rejoignent celles de l'anthropologie cognitive, dégager par-delà la variabilité des langues et des cultures, des structures mentales universelles. Dans les dernières années, une série de recherches s'est inspirée des méthodes utilisées chez le jeune enfant pour démontrer la présence d'une intuition arithmétique sans langage chez des peuples lointains. Mon collègue linguiste Pierre Picat a ainsi examiné les compétences arithmétiques et mathématiques d'un peuple d'Amazonie, les Munduruku, qui n'ont de mots que pour les petits nombres de 1 à 5. Si les mots conditionnent la pensée, comme l'envisage un débat classique, alors la cognition numérique de ces Indiens devrait se cantonner au petit nombre approximatif. Mais il n'en est rien. Les Munduruku, enfants comme adultes, possèdent une riche intuition arithmétique. Lorsque les tests ne font pas appel au langage, mais présentent de grands nombres sous forme d'ensembles animés d'objets, les participants comprennent instantanément ce qu'est une addition, une soustraction ou une comparaison approximative. Ils ne savent pas compter, mais ils savent que le cardinal d'un ensemble change dès qu'on y ajoute ou retranche un objet. Le concept de nombre précède donc le nom de nombre. Il en va de même en géométrie. Les concepts fondamentaux, point, droite, parallélisme, distance, milieu, sont tous présents sous une forme proto-mathématique avant que nous ayons les mots pour le dire. L'expérimentation a permis de dégager, au sein de ce noyau de compétences, des lois simples et universelles, valides chez l'homme adulte, comme chez le bébé ou chez l'animal. Illustrons-les par un test très simple d'estimation du nombre. Deux ensembles sont présentés visuellement côte à côte et l'on demande de décider sans compter lequel contient le plus grand nombre d'objets. En faisant varier systématiquement les deux nombres, nous observons une première loi, l'effet de distance. Le nombre d'erreurs de comparaison décroît suivant une fonction régulière de l'écart entre les nombres. Sa pente, qui varie d'une personne à l'autre, mesure la précision du jugement. Une pente raide indique une bonne capacité de détection des différences numériques les plus fines. À présent, faisons varier le premier nombre. Portons-le par exemple à 32, le double de la valeur précédente. Nous voyons que la largeur de la courbe double également. Voilà une seconde loi qui porte le nom de son découvreur, la loi de Weber. Lorsque les grandeurs augmentent, l'imprécision des jugements augmente dans la même proportion. En d'autres termes, plus les nombres sont grands, plus leur estimation est approximative. À présent, passons à une reformulation intéressante que l'on doit à Gustav Fechner de ses observations. Selon la loi de Fechner, les dimensions physiques, comme la taille ou le nombre, sont représentées sur un continuum interne, une sorte d'espace ou de ligne. Mais celle-ci n'est pas linéaire. Elle comprime les grands nombres en proportion directe de leur discriminabilité, donc selon une loi logarithmique. Effectivement, si nous représentons nos observations sur une échelle logarithmique et non plus linéaire, on voit que les taux d'erreur deviennent une fonction symétrique, très simple, régulière, invariante sur l'ensemble des nombres testés. D'où provient cette fonction de discrimination ? Supposons, à la suite de Fechner, que chaque quantité est représentée mentalement sur une échelle logarithmique. Supposons également, à la suite de Thurstone, que ces quantités mentales ne peuvent être obtenues avec une précision absolue, mais présentent une variabilité gaussienne. Ainsi, chaque quantité est représentée mentalement, à un essai donné, par une variable aléatoire gaussienne sur un continuum logarithmique. La règle de réponse optimale peut alors être calculée mathématiquement. Pour décider si une quantité est plus petite ou plus grande que 16, il suffit de fixer un critère de réponse sur le continuum, de répondre plus grand chaque fois que la variable aléatoire dépasse ce point. Ce modèle n'engendre pas une performance parfaite, mais prédit un taux d'erreur égal à la surface emprisonnée entre la courbe gaussienne et le critère de réponse. De fait, l'intégrale d'une gaussienne s'ajuste aux données expérimentales avec une précision remarquable, mais uniquement si cette fonction est appliquée à une échelle logarithmique. Voilà un tout petit exemple qui montre comment un modèle mathématique simplissime rend compte d'un comportement complexe. On sait depuis des années que la théorie de la détection du signal, dont je viens d'esquisser quelques principes, s'applique avec une finesse remarquable à la plupart des jugements perceptifs, taille, poids, hauteur sonore. On s'aperçoit aujourd'hui qu'elle régit également des dimensions abstraites, telles que le nombre. Les lois psychophysiques, souvent dérivables de la statistique bayésienne, suggèrent que les principes de codage cérébral des objets mentaux pourraient être similaires au niveau perceptif et conceptuel. Il y a maintenant un début de physique des concepts, au moins des plus simples. Poursuivons un instant le parallèle entre l'histoire de la psychologie et celle de la physique. La physique a connu ses succès les plus éclatants lorsqu'un objet théorique, initialement une pure vue de l'esprit, se voyait confirmé par l'expérience des années plus tard. L'exemple peut-être le plus célèbre est celui du neutrino, dont Wolfgang Pauli postulait l'existence dès 1930 et qui ne sera détecté qu'en 1956. Je me réjouis de voir un indice de la maturité de la psychologie cognitive dans le fait qu'elle commence à connaître, toute proportion gardée, des succès similaires dans la naturalisation de ces objets théoriques. La proposition de Fechner, selon laquelle le nombre et d'autres dimensions sont représentés sur un axe logarithmique, n'est au départ qu'un formalisme mathématique. Elle le reste jusque dans les années 80-90, où la modélisation de réseaux de neurones formels permet d'en proposer une implémentation neurobiologique. Les quantités seraient codées par des groupes de neurones en compétition, chacun atteignant un taux de décharge maximal lorsqu'une quantité donnée est présentée. Il existerait donc des neurones détecteurs de nombres codant par exemple pour 4 ou 5 objets. La modélisation explicite de leur fonctionnement montre que plus les nombres sont grands, plus leur code neural est variable. Selon ce modèle, il est rationnel d'allouer moins de neurones aux grands nombres et ce code neuronal comprimé conduit en première approximation à la loi de Weber-Fechner. En parallèle, dans les années 85 à 2000, le développement des méthodes d'imagerie cérébrale donne à voir, d'abord en caméra à simple photon, puis en caméra à positon, enfin en IRM fonctionnel, des images toujours plus précises des calculs du cerveau humain. Nous y découvrons une régularité inattendue. Toutes les tâches qui évoquent un sens de la quantité, addition, soustraction, comparaison, mais aussi simple vision d'un chiffre ou dénombrement d'un nuage de points, activent un réseau reproductible de régions, au premier rang desquelles figure le fond du sillon intrapariétal. Cette région que l'on voit ici, dans l'hémisphère gauche comme dans l'hémisphère droit. Cette localisation s'accorde avec les connaissances des neurologues. Dès les années 1920, deux médecins allemands, Henschen et Gerstmann, sur la base de l'observation de nombreux blessés de la Première Guerre mondiale, avaient montré que des lésions pariétales, en particulier à gauche, entraînent une acalculie. Le patient ne parvient plus à réaliser des opérations aussi simples que 7-2 ou 3-5. Au début des années 2000, l'imagerie précise l'insertion de la région activée par le calcul dans le lobe pariétal. Elle la montre enchâssée au sein d'un réseau de régions impliquées dans les mouvements des yeux, de l'attention ou des mains. Toutes ces activités visuomotrices ont été étudiées par l'électrophysiologie chez le singe macaque. Des aires pariétales spécialisées y ont été identifiées, dont la géométrie reproduit en grande partie celle présente dans l'espèce humaine. Il existerait donc une étroite homologie entre le lobe pariétal des primates humains et non humains, homologie qui continue à être développée actuellement. Cette homologie s'étendrait-elle jusque dans le domaine de l'arithmétique ? Comme nous l'avons vu, le singe macaque peut accomplir certaines opérations arithmétiques avec un profil de réponse comparable à celui de l'homme. Une idée germe alors, la région intrapariétale pourrait abriter chez tous les primates, humains comme non humains, les neurones détecteurs de nombres postulés par la théorie. C'est en 2002 qu'Andreas Nieder et Earl Miller mettent cette idée audacieuse à l'épreuve. S'entourant de nombreuses précautions expérimentales, ils commencent par entraîner les animaux à juger si deux ensembles contiennent le même nombre d'objets. Une vaste batterie de contrôle confirme que la performance des animaux est bien liée au nombre et qu'elle suit la loi de Weber. Enregistrant ensuite dans la région préfrontale, puis dans la région intrapariétale profonde prédite par nos expériences d'imagerie cérébrale chez l'homme, ils découvrent que près de 20% des neurones y sont sensibles au nombre. Leur profil de réponse, que l'on voit ici sur la droite, s'ajuste étroitement à ceux prédits par la théorie. Chaque neurone montre un pic de réponse pour un nombre donné. une décroissance du taux de décharge en fonction de la distance numérique, courbe de réponse qui est gaussienne, uniquement lorsque les données sont visualisées sur une échelle logarithmique. Toutes ces propriétés permettent enfin de comprendre l'origine neuronale des lois de distance et de Weber. L'effet de distance provient du recouvrement entre les populations de neurones qui codent pour des nombres proches. La loi de Weber, elle, est issue du flou croissant du code neural des grands nombres. Sur le plan anatomique même, une remarquable homologie semble relier les régions qui s'intéressent aux nombres dans le cerveau de l'homme et de l'animal. L'ensemble de ces résultats ouvre un vaste programme de recherche. La précision des opérations arithmétiques peut-elle être déduite de celle du code neural ? Comment l'activité neurale se déplace-t-elle sur la carte pariétale lors d'un calcul ? Par quel mécanisme les neurones pariétaux acquièrent-ils leur sélectivité ? Sont-ils présents chez l'animal non entraîné, voire chez l'enfant ? Quels gènes de développement établissent cette carte pariétale ? Quel est leur degré de conservation d'une espèce à l'autre ? L'anomalie de tels gènes, ou leur interaction avec des pathogènes, par exemple l'exposition à l'alcool in utero, pourrait-elle expliquer la dyscalculie, c'est-à-dire l'absence d'intuition arithmétique de certains enfants, chez qui l'imagerie met d'ailleurs en évidence une désorganisation du sillon intrapariétal ? On objectera que l'arithmétique humaine présente une différence évidente et majeure avec celle de l'animal. Notre espèce seule dispose d'une variété de symboles, mots et chiffres, dont les formes varient massivement d'une culture à l'autre. Grâce à ces symboles, n'avons-nous pas accès à un mode de calcul exact, d'une nature entièrement nouvelle, sans aucun rapport avec la perception des quantités chez l'animal ? Eh bien non. S'il ne fait aucun doute que l'invention d'algorithmes symboliques a décuplé les compétences mathématiques humaines, leur fondement reste profondément enraciné dans la cognition animale. Lorsque nous effectuons des calculs symboliques, les lois de distance et de Weber continuent donc de caractériser notre comportement. En 1967, Moyer et Landauer découvrent que l'effet de distance ne caractérise pas seulement la perception des grandeurs physiques, mais également la compréhension des symboles tels que les chiffres arabes. Supposons par exemple que je vous présente des nombres de deux chiffres, l'un après l'autre, en vous demandant de décider pour chacun, le plus rapidement possible, s'il est plus grand ou plus petit qu'une référence, qui peut être ici le nombre 65. Vous ne ferez que peu d'erreurs. Même pour de très petites distances, lorsque le nombre vaut 64 ou 66, sa grandeur vous est bien entendu connue avec précision. Cependant, votre temps de réponse variera systématiquement avec la distance. Rapide pour les nombres loin de 65, de plus en plus lent à mesure qu'on s'approche de cette référence. Ces derniers nombres ne sont d'ailleurs pas totalement exempts d'erreurs. Comment comprendre cet effet ? Le cerveau ne se cantonne visiblement pas à la manipulation des symboles digitaux, des chiffres arabes. Si tel était le cas, il comparerait d'abord le chiffre de gauche avec 6, puis seulement si nécessaire, le chiffre de droite avec 5. On constate au contraire que la quantité globale est prise en compte. Une conversion mentale se produit. Le nombre est traduit mentalement en une quantité interne comparable avec celle qui serait évoquée par un ensemble d'objets, donc variable, fluctuante, soumise aux lois de la psychophysique. En présence de telles fluctuations stochastiques, le cerveau doit se comporter comme un statisticien qui collecte de multiples échantillons avant d'atteindre une conclusion ferme. L'effet de distance peut alors s'expliquer par le fait que cette collecte dure d'autant plus longtemps que les objets à comparer sont proches. Mais comment modéliser cette opération ? Dès 1943, Alan Turing avait en fait formalisé ce problème dans un contexte cryptographique. À Bletchley Park étaient reçus les messages allemands cryptés par la machine Enigma. Chaque fraction de message ne fournissait que quelques bribes d'informations jugées trop infimes pour être exploitables. Turing découvrit comment les combiner afin d'obtenir une information plus stable. Sa théorie définit le poids d'une information I en faveur de l'hypothèse A comme le logarithme de sa vraisemblance, c'est-à-dire du rapport des probabilités d'observer I dans cette hypothèse et dans l'hypothèse contraire. Selon la loi de Bayes, les poids fournis par des bribes indépendantes d'informations peuvent alors s'additionner. Même si chaque information est infime, il suffit donc d'additionner leur poids et d'attendre que le total atteigne un seuil donné de certitude. Combiné à l'usage des premiers calculateurs, l'algorithme de Turing permit de décrypter le code Enigma. Mais Turing avait en fait mis le doigt sur un mécanisme général dont les applications dépassent de très loin la seule cryptographie. En 1947, le statisticien Abraham Wald redécouvre l'algorithme de Turing et démontre qu'il constitue un mécanisme optimal d'inférence statistique séquentielle. Dans les années 60, les psychologues Stone et Lemming postulent que le cerveau humain utilise cette règle d'échantillonnage séquentiel. Voyons comment cette idée s'applique à la comparaison des nombres. À chaque instant, comme je l'ai dit, la représentation du nombre est supposée tirée d'une loi gaussienne sur un continuum logarithmique. Chaque échantillon fournit alors un vote en faveur de la réponse plus grand ou plus petit. La somme de ces votes grandit de façon stochastique, formant ce que le mathématicien appelle une marche aléatoire. Le modèle suppose qu'une réponse est émise lorsque la somme atteint l'un des deux seuils, haut et bas, fixés à l'avance. Le sujet prend la décision de répondre plus grand si le seuil haut est atteint et la réponse plus petit si le seuil bas est atteint. Ces seuils peuvent être ajustés afin d'atteindre un compromis optimal entre le temps de réponse et le taux d'erreur. L'intérêt de ce modèle est d'expliquer en très grand détail la variabilité des décisions humaines. Pourquoi nos décisions sont-elles si variables et entachées d'erreurs, alors que le stimulus symbolique ne présente aucune variabilité? Le modèle de marche aléatoire l'explique en soulignant que le système de décision doit, dans un environnement neuronal bruité, repérer et extraire le signal pertinent, un peu comme le ferait un spécialiste de cryptographie. Dans ce modèle, et ses variantes introduites par Link, Radcliffe, Usher et McClelland, le calcul de la distribution du temps de réponse devient un problème purement mathématique, celui d'un processus de diffusion avec barrière absorbante. Sa solution est bien connue, je m'empresse de dire qu'elle est bien connue des physiciens et un peu difficile du point de vue des psychologues. Radcliffe et ses collègues montrent qu'elle rend très finement compte des lois de la chronométrie mentale. Depuis un siècle, on sait que la distribution des temps de réponse suit une loi reproductible. La distribution théorique, prédite par la marche aléatoire, l'ajuste étroitement. Si le signal est faible, il se peut que cette accumulation interne, cette marche aléatoire, n'atteigne jamais le seuil de décision. Il faut alors se forcer à répondre, répondre à choix forcé, après un temps fixe. La loi des grands nombres prédit que lorsqu'on arrête l'accumulation avant son terme, l'état interne de l'accumulation qui fonde la décision est une variable aléatoire gaussienne. On retrouve donc les hypothèses de la théorie de la détection du signal dont je parlais plus haut. La nouvelle théorie englobe l'ancienne. Elle rend également compte du fait que le taux de réussite croît avec le temps de réflexion, à nouveau selon une loi précisément prédite par la théorie. J'ai déjà dit que les modèles psychologiques, en tout cas les bons modèles, avaient vocation, comme l'hypothèse du neutrino, à se vérifier au niveau neuronal. Près de 40 ans après sa première formulation, la théorie psychologique de l'accumulateur stochastique que je viens de vous présenter s'est vue confirmée par l'électrophysiologie. Le groupe de Michael Shadlen et William Newsom a enregistré l'activité de neurones du cortex préfrontal du singe macaque au cours d'une prise de décision perceptive. Ils ont découvert que l'activité de ces neurones croît de façon stochastique avec une pente directement liée à la qualité des indices perçus. Les neurones frontaux semblent additionner les signaux perceptifs transmis par les régions corticales postérieures. Leur profil de décharge trace une marche aléatoire, non plus virtuelle, mais inscrite dans l'activité cérébrale. Cette marche aléatoire prédit la latence de réponse de l'animal et même la survenue des erreurs. Leur fréquence peut d'ailleurs être augmentée lorsque l'expérimentateur, par microstimulation intracorticale, vient biaiser la perception. Les 5 dernières années ont vu l'expansion remarquable de ce domaine de recherche et je vous renvoie pour plus de détails au livre « La décision » publié récemment par Alain Berthoz. Des neurones intégrateurs ont été observés dans la région pariétale latérale, le cortex frontal, le colliculus supérieur. Leur comportement vient d'être finement modélisé par la physique des systèmes dynamiques. Wang et Wang ont montré qu'une accumulation séquentielle émerge de la dynamique d'activation d'un réseau bouclé sur lui-même où chaque décision est représentée par un groupe distinct de neurones. C'est un modèle minimal, évidemment très simplifié, mais qui présente l'intérêt de lier la faculté d'intégration temporelle à la vitesse de réponse des récepteurs NMDA du glutamate, une prédiction intéressante qu'il faudra tester à l'avenir. Doivent encore être ajoutés à ce modèle des mécanismes de récompense qui biaisent la prise de décision en faveur de celles qui ont conduit par le passé à une issue favorable. Ces biais émotionnels, qu'Antonio Damasio aima appeler réaction viscérale, régulent nos choix, souvent pour le meilleur, parfois pour le pire. L'addiction aux drogues pourrait s'expliquer, pour partie au moins, par un biais de cet appareil décisionnel. Les substances actives manipuleraient directement les mécanismes pharmacochimiques de la décision, en sorte qu'ils restent figés dans un choix sans issue. L'élucidation progressive des réseaux de la décision mentale donne ainsi corps à la vision de Jean-Pierre Changeux, qui dans sa leçon inaugurale soulignait, je cite, « une compatibilité totale de principes existe entre le déterminisme le plus absolu et l'apparente imprévisibilité d'un comportement. Toute pensée émet un coup de dé, disait déjà Mallarmé. Conformément au projet défini dans l'homme neuronal, la variabilité et l'illusoire libre arbitre des décisions humaines se rattachent à des mécanismes neuronaux simples dont la dynamique gouverne notre comportement. La psychologie naïve se demande comment nous prenons des décisions. La nouvelle théorie indique comment des décisions se prennent en nous par brisure de symétrie dans un réseau stochastique et métastable. Dans cette théorie, les lois psychologiques de la chronométrie mentale se déduisent de la physique statistique des réseaux neuronaux et ceci implémente en première approximation l'algorithme de prise de décision de Turing. En bref, l'évolution a doté nos réseaux cérébraux d'une dynamique qui approxime la statistique d'un observateur idéal. Après nous être penchés sur la décision, reprenons un plan plus large pour reconsidérer les étapes successives de traitement d'un symbole numérique. Le modèle auquel nous arrivons se décompose en trois stades. Reconnaissance visuelle du symbole, conversion en une quantité interne qui sert de support à la prise de décision, enfin programmation motrice de la réponse. Pour évaluer la validité d'une telle décomposition, le psychologue Saul Sternberg a introduit en 1969 la méthode des facteurs additifs. Il s'agit de faire varier de façon indépendante plusieurs variables expérimentales, chacune étant supposée n'affecter qu'une étape, et d'étudier leur impact sur le temps de réponse et sur l'activité cérébrale. Dans le cas de la comparaison des nombres, chaque étape peut effectivement être sélectivement ralentie par un facteur expérimental distinct. L'identification visuelle est plus lente pour les mots que pour les chiffres. La décision, comme nous l'avons vu, se ralentit lorsque la distance numérique diminue. Enfin, la latence des réponses augmente si l'on accroît leur complexité, par exemple en demandant aux participants de cliquer deux fois de suite. Si le traitement de l'information est sériel, les effets cumulés de chacun de ces ralentissements doivent être additifs. Tel est effectivement le cas. Chaque étape ajoute un temps fixe au temps moyen total de calcul. L'IRM fonctionnel et l'électroencéphalographie confirment la présence de trois systèmes cérébraux distincts, chacun affecté par un seul facteur et se déployant à un moment différent. Dès 110 millisecondes, débute l'analyse visuelle dans la région occipito-temporale de l'hémisphère gauche pour les mots écrits et des deux hémisphères pour les chiffres arabes. À ce stade, aucune trace de sens. Seule domine l'extraction de la forme. Cependant, vers 190 millisecondes, la région intrapariétale entre en activité et le code change. Cette région ne s'intéresse qu'aux quantités numériques, pas à la notation particulière utilisée par la dénotée. Enfin, dès 250 millisecondes, apparaissent les premiers effets de programmation motrice dans les cortex prémoteurs et moteurs. Seul compte alors le côté de réponse droit ou gauche. La sérialité de ces étapes n'est toutefois qu'approximative. À une échelle plus fine, des travaux initiés par Jean Requin, prolongés notamment par les travaux d'Alexa Rilleux et de Jeff Miller, indiquent une transmission graduelle d'étape en étape, compatible avec le modèle de propagation en cascade proposé par Jay McClelland. Il reste que chaque région cérébrale contribue à une opération bien spécifique. J'ai déjà longuement parlé de la région pariétale et de sa contribution au sens des nombres, mais la région occipito-temporale gauche est au moins aussi intéressante pour le psychologue. Cette région apparaît en effet comme un nœud essentiel du réseau cérébral de la lecture. Dès 1892, Dejerine avait remarqué son rôle dans l'identification des lettres et des mots en décrivant le syndrome d'alexie pure. L'un de ses patients, atteint d'une lésion de cette région, ne parvenait plus à lire un seul mot, même s'il savait encore écrire et parler. 110 ans plus tard, l'imagerie cérébrale, menée notamment à l'hôpital de la Salpêtrière par Laurent Cohen et ses collègues, réplique ces observations. Elle démontre que cette région répond aux mots écrits indépendamment de leur taille et de leur position et est responsable de leur invariance perceptive. À la frontière entre nature et culture, l'existence d'une région cérébrale spécialisée pour les mots pose un beau problème de développement cérébral. Comment se peut-il que le cerveau dédie une région à la lecture, la même chez tous les individus, toujours à la même position, au centimètre près, dans toutes les cultures que l'on lise en français, anglais, hébreu ou chinois. L'explication envisagée est celle d'un recyclage culturel, la reconversion d'une région préexistante en vue d'une activité nouvelle, la lecture. Chez l'homme, comme chez les autres primates, la région occipito-temporale intervient déjà dans la reconnaissance visuelle des objets et des visages. Les travaux de Miyashita, de Logothetis, y observent une plasticité neuronale. Les neurones s'y adaptent à la reconnaissance de formes nouvelles, fractales ou même combinaisons arbitraires de traits. Plusieurs équipes, notamment celles de Tanaka, de Tanifuji, de Guy Orban, y ont enregistré des neurones sélectifs à des fragments d'objets, dont certains ont déjà la forme approximative des lettres. Avec l'exposition à l'écriture, ces réseaux pourraient donc se réorganiser, se recycler, pour former une pyramide hiérarchique d'invariance croissante, capable de reconnaître d'abord les lettres, puis leurs assemblages en graphèmes, en morphèmes, enfin les mots ou leurs fragments. De fait, l'IRM mené chez l'enfant montre que la région occipito-temporale acquiert progressivement son expertise pour les chaînes de lettres, entre 6 et 12 ans. Elle figure également de façon proéminente parmi les régions dont l'activité est anormalement faible chez les enfants dyslexiques. Cette compréhension croissante des mécanismes de la lecture n'est pas sans conséquence dans le débat récemment revenu sous les feux de l'actualité sur la méthode optimale d'enseignement de la lecture. La région occipito-temporale ne fonctionne pas par reconnaissance globale de la forme du mot, mais apprend à le décomposer en lettres, graphèmes et morphèmes, dont les relations avec les sons du langage gagnent à être enseignées explicitement aux enfants. La neuroimagerie fournit ainsi des arguments en faveur d'un enseignement explicite des correspondances phonèmes-graphèmes, ce que la psychologie cognitive confirme par l'étude de l'acquisition de la lecture chez l'enfant et de l'efficacité de son enseignement. Le temps paraît mûr pour que se développent dans ce domaine, comme dans celui de l'arithmétique, des expérimentations cognitives qui associeraient étroitement éducateurs et spécialistes du cerveau et de la psychologie. Mais revenons à l'architecture globale de l'arithmétique. Je vous ai décrit quelques hypothèses très simples, trop simples sans doute, mais qui ont au moins le mérite d'une certaine efficacité prédictive. Le modèle qui se dégage suppose que nous possédons tous une intuition du nombre, un sens des quantités et de leurs combinaisons arithmétiques. Sur ce noyau central de connaissances viennent se greffer ensuite les symboles culturels arbitraires que sont les mots et les chiffres. Le temps me manque pour décrire toutes les transformations que cette symbolisation particulière à l'espèce humaine induit dans notre système cognitif. Je dirais simplement que chaque symbole rassemble, condense, en un tout petit objet de pensée et de mémoire, des informations dispersées. Mais surtout, qu'il discrétise le continuum des représentations analogiques et préverbales. L'intuition arithmétique que nous héritons de l'évolution semble continue et approximative. L'apprentissage des mots et des chiffres la rend digitale et précise. Les symboles nous donnent accès à des algorithmes séquentiels de calcul exact. C'est à ce niveau, et à ce niveau seul, que le cerveau peut être directement comparé à une machine de Turing. Un bien pauvre ordinateur, en réalité, un million de fois plus lent que la moindre calculatrice, et dont les calculs sont fréquemment entachés d'erreurs. La machine de Turing humaine reste bien mystérieuse. Comment faisons-nous pour enchaîner plusieurs opérations? Comment contrôlons-nous l'exécution de chaque étape? La vision linéaire et pour ainsi dire réflexe de l'activité mentale qu'adoptent par commodité beaucoup de modèles psychologiques laisse penser que les processus cognitifs s'enchaînent automatiquement sans aucune supervision. Or, que la personne fasse une erreur, qu'elle soit distraite, que de multiples tâches la sollicitent, et l'on voit aussitôt entrer en action d'autres systèmes qui occupent une position hiérarchique plus élevée. Le schéma simpliste d'un traitement réflexe entrée-sortie doit donc être bouleversé au profit d'un modèle où s'exerce un fort contrôle descendant. Notre cerveau est un organe intentionnel qui se fixe des buts et recherche activement les informations et les actions qui mènent à ces buts. Il y a en chacun de nous un administrateur central, un peu comme au Collège de France, dont le rôle est de contrôler les tâches, de gérer les conflits ou les erreurs. Mais cet opérateur mental, je parle de la psychologie, trop souvent resté un homunculus ou un deus ex machina de la psychologie, doit lui-même s'analyser en mécanisme élémentaire. La compréhension de ces processus de contrôle cognitif, encore balbutiante, tire profit d'une observation fondamentale. Même s'il est constitué de multiples processeurs parallèles, au plus haut niveau cognitif, le cerveau humain se comporte comme une machine étonnamment lente et sérielle, qui ne peut faire qu'une opération à la fois. Cette observation est fort ancienne. On la trouve déjà dans le Traité de l'Homme, où René Descartes attribue à la fameuse glande pinéale que l'on ne puisse pas, en même temps, faire attention à l'odorat et à la vision. Pendant que cette glande est ainsi retenue, penchée vers quelque côté, dit Descartes, cela l'empêche de pouvoir si aisément recevoir les idées des objets qui agissent contre les organes des autres sens. D'où vous voyez comment les idées s'empêchent l'une l'autre et d'où vient que l'on ne peut être fort attentif à plusieurs choses en même temps. L'étude des collisions mentales entre plusieurs opérations simultanées est devenue un outil aussi utile pour le psychologue que peut-être peut l'être l'accélérateur de particules pour le physicien. En faisant voler en éclats une tâche cognitive, la collision entre deux tâches révoile une organisation interne complexe et insoupçonnée. Telford, en 1931, découvre l'existence d'un phénomène qu'il nomme « période psychologique réfractaire » et que caractériseront ultérieurement Welford, Broadbent et Pachler. Demandons aux participants d'une expérience de faire deux tâches successives, par exemple répondre à un son, d'une part, mais également comparer un chiffre. Lorsqu'un long intervalle de temps sépare ces deux stimulations, chaque tâche est traitée sans difficulté en un temps fixe. Lorsque l'intervalle de temps diminue, la latence de la première réponse reste constante, ce qu'on voit ici. Par contre, la latence de la seconde réponse se ralentit. Dans le cas limite où les deux stimuli sont présentés en même temps, la seconde tâche doit attendre un temps considérable, comme si elle subissait le contre-coup d'une période réfractaire établie par la première. Cependant, les travaux d'Alpachler montrent que ce n'est pas la totalité de la seconde tâche qui est ralentie. Ni la perception des stimuli, ni l'exécution de la réponse motrice ne sont différées pendant l'accomplissement simultané de deux tâches. Seule une étape dite centrale semble subir un goulot d'étranglement où les opérations mentales s'exécutent en série et non en parallèle. Les recherches de Mariano Sigman suggèrent qu'il existe un lien étroit entre cette étape centrale et le modèle d'accumulation stochastique que je vous ai présenté. Seule la prise de décision stochastique serait responsable du goulot d'étranglement central. Nous pouvons reconnaître plusieurs objets ou effectuer plusieurs réponses en parallèle, mais pas prendre plusieurs décisions simultanément. Il y a à nouveau sur ce point une convergence intéressante avec la psychophysique. En effet, dans le domaine des décisions perceptives, Andrei Gorea et Dov Sagi montrent que le cerveau ne parvient pas à adopter simultanément deux critères optimaux de réponse lorsqu'il conviendrait de prendre en même temps deux décisions distinctes. Plusieurs interprétations de ces données restent débattues. Pachler, un peu comme Descartes, envisage un goulot d'étranglement passif, issu de l'architecture même du système nerveux. L'opérateur de sélection des réponses ne peut pas se pencher sur deux tâches à la fois. C'est pourquoi la première tâche qui le sollicite est effectuée immédiatement, tandis que la seconde est mise en attente. Pour d'autres, comme Meyer, Gordon ou Logan, le traitement sériel résulterait d'une stratégie adoptée pour minimiser les interférences. Pour Navon, Miller ou Jolicoeur, enfin, les ressources centrales peuvent être partagées entre plusieurs opérations, mais un processus de coordination, encore mal spécifié, évalue s'il est avantageux de donner priorité à une opération au détriment de l'autre. Empiriquement, on observe effectivement des ralentissements liés à la coordination des tâches multiples, que l'imagerie cérébrale associe systématiquement aux régions préfrontales et pariétales. Le psychologue anglais Alan Allport montre par exemple que le passage d'une tâche à l'autre induit un coût mesurable lié à la mise en place ou à l'abandon d'une stratégie. Paul Bertelsen ainsi que Navon et Gopher montrent également un effet de concurrence entre deux tâches. Même si les opérations sont espacées dans le temps, le simple fait de garder deux stratégies prêtes à démarrer ralentit l'exécution de chacune d'entre elles. Toutes ces observations et bien d'autres encore sont la signature d'un très complexe système de contrôle cognitif particulièrement développé dans l'espèce humaine. Il peut être fractionné en de multiples processus, certains responsables de la mise en place d'une opération, d'autres de sa mise en attente, du branchement vers une autre opération, de l'orientation de l'attention, de la détection d'erreurs. Toutes ces opérations apparaissent à un niveau hiérarchique supérieur au processus plus automatique de perception, d'accès au sens ou d'exécution d'une réponse motrice. Parmi les plus intéressantes découvertes de ces dernières années figure l'établissement d'un lien étroit entre cette division hiérarchique de la cognition et la distinction entre opérations conscientes et opérations non conscientes. L'étude de la perception subliminale a en effet montré que l'ensemble des processus du premier niveau pouvaient être activés en l'absence de conscience. On doit à Ken Forster, Anthony Greenwald ou Jonathan Granger d'élégantes démonstrations de reconnaissance visuelle inconsciente. Les travaux de Tony Marcel, confirmés à l'aide de l'imagerie et de l'électrophysiologie, notamment par Lionel Nakache, montrent que même des représentations conceptuelles et motrices peuvent être activées sans que nous en ayons la moindre conscience. Selon Goodell et Milner, l'ensemble de la chaîne visuomotrice dorsale, opère en dehors de toute introspection consciente. Yves Rossetti parle élégamment du pilote automatique de nos gestes. Inversement, toutes les opérations qui relèvent du contrôle cognitif semblent ne pas pouvoir s'exécuter sans que nous en soyons conscients. Selon Larry Jacoby, par exemple, agir à l'encontre de nos automatismes cognitifs, par exemple dire rouge lorsque nous voyons le mot vert et vice-versa, nécessite un contrôle conscient. Lorsqu'un conflit ou une erreur survient dans les processus de bas niveau, le contrôle cognitif augmente lors des essais suivants, mais cette reprise de contrôle n'intervient que lorsque le conflit est détecté consciemment, pas lorsque les stimuli sont présentés sous le seuil de conscience. On peut tenter de résumer ces observations par deux lois simples. Premièrement, un stimulus non conscient peut traverser une série d'étapes perceptives, conceptuelles et motrices préparées par l'administrateur central. Deuxièmement, l'accès aux processus centraux s'accompagne nécessairement d'une prise de conscience. Selon ce modèle, la conscience apparaît associée à un système cérébral sériel, à capacité limitée, responsable du contrôle des autres opérations mentales. Il peut paraître surprenant que nous n'ayons qu'une conscience réduite à un objet de pensée à la fois. Cependant, cette limite centrale est confirmée par les travaux de Sperling, prolongés par Raymond, Shapiro, Duncan. Dans le paradigme de collision mentale dont je vous ai parlé, il montre qu'un stimulus présenté pendant le traitement central d'une autre cible peut être littéralement effacé de la conscience. Lorsque ce stimulus est suivi d'un masque, son traitement ne se poursuit pas jusqu'au bout. Sa perception consciente s'évanouit. Le sujet affirme qu'aucun stimulus n'a été présenté. C'est le phénomène de clignement attentionnel. Le fait de prendre conscience d'une première information ferme temporairement l'accès à la seconde. Le lien entre l'attention exécutive et la conscience est renforcé par d'autres illusions visuelles. Kevin O'Regan, avec Ronald Rensink, a développé un paradigme de cécité au changement dans lequel deux images différentes alternent, entrecoupées d'un léger flash qui bloque l'attraction automatique de l'attention vers les régions où l'image change. Dans ces conditions, il est possible de rester plusieurs dizaines de secondes sans voir qu'un changement majeur a lieu sous nos yeux. Je vous laisse examiner cette image pour voir si vous parvenez à découvrir l'élément qui, en ce moment même, est en train de changer sur votre rétine sans que vous en ayez conscience. Si l'on faisait de l'imagerie cérébrale, on pourrait voir se propager dans votre cerveau une petite activation non consciente jusqu'à ce que j'attire votre attention sur, je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, sur la montagne qui est au fond de l'image ici et qui change et qui n'est pas détectée. De telles expériences, et il y en a beaucoup, ouvrent une fenêtre sur l'un des problèmes les plus aigus posés à la psychologie cognitive. Qu'est-ce que la conscience ? Certains philosophes ont souligné le hiatus apparent entre le caractère subjectif de l'expérience consciente et l'analyse objective à la troisième personne que l'on peut mener par les méthodes de la psychologie cognitive. Selon eux, l'expérience consciente, par nature subjective, échapperait à l'expérimentation. Je ne partage pas ce point de vue. Les paradigmes de masquage, de clignement attentionnel, de cécité au changement et bien d'autres encore témoignent qu'il existe des conditions expérimentales reproductibles dans lesquelles tous les sujets s'accordent sur la nature de leur expérience consciente et sont capables de la rapporter. Ces phénomènes permettent d'identifier des bases cérébrales objectives de la conscience subjective. Dans les dernières années, on ne compte plus les illusions, erreurs, hallucinations qui toutes ont été modélisées et rapportées à des bases neuronales objectives. La synthèse que l'on voit poindre de ces recherches associe, de façon hypothétique, l'accès conscient à un système pariétofrontal qui amplifie, rassemble et organise les informations issues d'autres régions corticales, afin de les intégrer à un comportement contrôlé et intentionnel. Cette idée n'est pas neuve. William James l'anticipait déjà en soulignant que, quelle que soit la complexité d'un objet, nous le concevons dans notre pensée comme un unique état indivisible de conscience. Dès 1921, le neurologue Leonardo Bianchi évoque un champ des synthèses mentales, particulièrement développé chez l'homme, qu'il associe au lobe frontal. En 1989, Bernard Barthes emploie la métaphore d'une scène de théâtre où l'information consciente est rassemblée pour être ensuite diffusée à une variété de processus mentaux. La neuroanatomie et l'imagerie cérébrale donnent aujourd'hui une certaine réalité à ces métaphores. Elles confirment que les aires préfrontales sont impliquées dans un vaste réseau associatif dont l'entrée en activité soudaine et coordonnée ponctue chaque accès d'une information à la conscience. Les travaux de physiologistes tels que Victor Lameux ou Christophe Corr et de psychologues tels que Vincent Di Lollo convergent pour souligner le rôle essentiel de l'amplification neuronale à longue distance. Selon eux, l'information représentée par la décharge d'une population de neurones spécialisés accède à la conscience dès lors qu'elle entre en réverbération avec d'autres neurones distants associés à des processus attentionnels, mnésiques ou exécutifs et distribués dans les cortex temporaux, pariétaux et préfrontaux. Des simulations neuroinformatiques, certes rudimentaires, confirment que de tels réseaux réverbérants possèdent des propriétés objectives de transition de phase dont les caractéristiques reproduisent les phénomènes perceptifs les plus fondamentaux. On y comprend en particulier pourquoi un seuil de conscience bien marqué, non linéaire, sépare deux états d'activité qui correspondent respectivement aux opérations subliminales en dessous du seuil et aux opérations conscientes. Tous ces travaux très récents laissent entrevoir un début de définition théorique de la conscience. Toutefois, pour atteindre cet objectif, deux obstacles majeurs devront être levés. Le premier consistera à passer de la simple corrélation à la relation de cause à effet. La neuroimagerie cognitive, en effet, ne peut montrer qu'une corrélation entre certains états d'activité du cerveau et l'accès des informations à la conscience. Reste alors ouvert ce que les philosophes Tom Nagel et Ned Block appellent un gouffre explicatif entre le niveau matériel et celui du psychisme. Gouffre explicatif qui a conduit certains philosophes, psychologues et même physiologistes comme John Eccles à l'impasse du dualisme. À l'avenir, la démonstration d'une relation de causalité et in fine d'identité entre états neuronaux et états mentaux conscients passera par l'utilisation de techniques d'interférence avec l'activité cérébrale. La stimulation magnétique transcrânienne est une technique déjà ancienne d'induction de courant dans le cerveau. On peut voir qu'elle s'est tout de même améliorée au fil des années. Lorsqu'elle est appliquée au cortex visuel, cette stimulation suscite des perceptions illusoires de lumière et de mouvement. Inversement, lorsqu'elle est appliquée aux régions pariétales impliquées dans l'attention, elle peut aussi effacer la perception consciente d'un stimulus réel. Ainsi commence à s'établir un lien causal entre l'attention, l'intégration centrale et la perception consciente. Le second obstacle à l'établissement d'une théorie de la conscience est d'une autre nature. La conscience, nous dit William James, est un flux ininterrompu, un train permanent de pensée, le vol d'un oiseau qui sans cesse s'envole ou se pose. J'aime cette métaphore qui rejoint la vision du physiologiste Rodolfo Linas. Le cerveau fonctionne sur un mode anticipatoire, sans cesse actif, ressassant le passé pour mieux anticiper le futur. Cependant, la psychologie cognitive néglige souvent cet état interne du sujet conscient, se contentant de le bombarder de stimuli et de recueillir ses réponses. Il s'agit aussi d'une limite expérimentale technique. Comment pourrions-nous inférer la structure des représentations mentales sans recueillir la moindre réponse ? Là encore, la neuroimagerie pourrait offrir une certaine solution. Lorsqu'une personne est au repos, sans instruction particulière, son cerveau montre une intense activité, structurée, souvent pariéto-frontale, qui fluctue spontanément entre plusieurs états corrélés à longue distance. La stimulation extérieure interrompt brièvement ce flux qui reprend une fois la tâche terminée. D'après Pierre Maquet et Stephen Lawries, cette activité spontanée distribuée caractérise l'état de veille consciente. Elle disparaît sous anesthésie et dans le sommeil profond, est absente chez les patients comateux et en état végétatif, mais réapparaît lorsqu'ils recouvrent conscience. Autrement dit, elle pourrait constituer un solide corrélat neuronal de l'état de vigilance consciente. Cette activité spontanée est dramatiquement altérée dans la dépression et la schizophrénie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de compréhension des maladies psychiatriques. L'activité mentale autonome, trop souvent négligée, doit donc redevenir un objet d'étude pour la psychologie cognitive. Nos expériences brident souvent les participants dans des tâches cognitives étroites. Si l'on espère comprendre le flux spontané de la conscience, de nouvelles méthodes expérimentales qui laisseraient une bien plus grande liberté au sujet devront donc être imaginées. Quelques mots en guise de conclusion. Tout au long de cet exposé, j'ai essayé de vous montrer que la cognition humaine obéit à de strictes lois qui n'épargnent même pas les aspects les plus subjectifs de notre perception consciente. Nous avons parcouru un chemin considérable depuis que Skinner énonçait, je le cite, « La psychologie, selon les visées behavioristes, est une branche purement objective des sciences naturelles. L'introspection ne fait pas partie essentielle de ces méthodes et la valeur scientifique de ces données ne dépend pas de la facilité avec laquelle elles s'interprètent sous l'angle de la conscience. » Au contraire, dans la psychologie d'aujourd'hui, les données subjectives de la conscience sont des objets d'études légitimes dans la mesure où la modélisation et l'imagerie les mettent en relation directe avec les données objectives de l'architecture cérébrale. Pour ma part, je crois profondément à un renouveau du programme psychophysique de Fechner, Wundt, Ribot ou Pierron, mais un programme qui, devenu neurophysique, irait au-delà de la simple description de lois psychologiques formelles pour s'ancrer sans ambiguïté au niveau neuronal. L'explication ultime des objets mentaux, que sont les perceptions, les illusions, les décisions ou les émotions, doit se formuler en termes de lois dynamiques, de transition dans les réseaux neuronaux. Nous devons donc concevoir de nouvelles théories pour, comme le disait le physicien Jean Perrin, substituer au visible compliqué de l'invisible simple. Je mesure pleinement l'immense chance que nous avons de vivre un temps où les avancées conjointes de la psychologie et de la neuroimagerie cognitive laissent entrevoir de rendre enfin visible, comme à crâne ouvert, l'invisible de la pensée. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.